en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour et bienvenue dans cette émission en habit vert. Comme vous le savez, nous célébrons cette année les 100 ans de la naissance de Claude Lévi-Strauss et Canal Académie vous propose une série d'émissions pour lui rendre hommage. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Jean-José Marchand, l'ancien chef du service cinéma à l'ORTF et critique littéraire depuis toujours. Jean-José Marchand avait rencontré en 1972 Claude Lévi-Strauss dans sa résidence en Côte d'Or et il avait enregistré un entretien de plusieurs heures de façon à sauvegarder la mémoire du grand anthropologue. Cet entretien, je vous propose d'en écouter quelques passages, suivis des commentaires de M. Marchand. Mais tout d'abord, écoutons-le nous expliquer les conditions dans lesquelles il rencontre Claude Lévi-Strauss cette année de 1972.
Donc je faisais les archives du XXe siècle qui ont duré donc pendant 5 ans. Et Lévi-Strauss n'en avait pas entendu parler, mais il a demandé d'abord à voir un questionnaire. Alors on lui a envoyé un questionnaire. Ce questionnaire l'a rassuré sur le caractère même de l'interview. Et à ce moment-là, il a donné son accord. La seule condition qu'il a donnée, c'est évidemment qu'on utilise ses vacances parce qu'il était très pris, parce qu'il avait énormément d'obligations, même universitaires, puisque je crois me souvenir, parce que c'est très ancien, qu'il était à la Sorbonne. Je ne me souviens plus très bien d'ailleurs quelles étaient ses activités à cette époque-là. Mais enfin, ce que je sais, c'est qu'il avait beaucoup de travail. Et alors, que nous venions en vacances, alors il dirigeait une maison sur le plateau de Langres. Alors évidemment, au contraire, pour nous, c'était des conditions absolument idéales parce qu'on pensait qu'il ne serait pas harcelé tout le temps par le téléphone. Et donc, évidemment, nous sommes partis, évidemment, avec une camionnette et avec tout le matériel et on l'a interviewé, voilà.
Comment vous avez réussi à avoir 4 heures d'enregistrement, 3 ou 4 heures, je crois?
Oui, mais ça vient du fait que... ça vient de la psychologie de Lévi-Strauss lui-même, qui est un personnage qui va jusqu'au bout de ce qu'il fait. Ou il ne fait rien, parce que ça lui plaît, ce qui est tout à fait logique, ou alors il va jusqu'au bout. À partir du moment où il avait donné son accord, eh bien, il voulait aller jusqu'au bout.
Où prend place cette interview?
Lévi-Strauss est un Parisien, comme vous le savez peut-être, d'une famille très lointainement parisienne, parce que ce sont des Juifs qui étaient installés en France dès le Premier Empire. Son arrière-grand-père est un auteur de valses, non pas les valses de Strauss, mais les valses de Lévi-Strauss. Et ce sont des Parisiens. Je crois même que sa famille habitait Versailles au moment où il est né. Ma mémoire flanche à ce sujet-là. Mais alors donc, pour se reposer, il a cherché un endroit, comment dirais-je, qui se situe soit à la lisière de la Haute-Marne et de la Côte d'Or, c'est-à-dire sur ce plateau où est né Diderot, n'est-ce pas, ce qui lui convenait très bien.
Est-ce qu'il est inquiet à l'époque où il vous rencontre?
Pas du tout, parce qu'il se rend bien compte qu'au contraire, il est en train de passer peu à peu au rang de classique, c'est-à-dire le mérite des gens qui s'opposent au structuralisme, c'est en même temps de le poser. C'est-à-dire que personne ne s'oppose à des gens sans intérêt, personne ne contredira des doctrines stupides, n'est-ce pas? Et donc, il sent qu'il va se passer quelque chose qui d'ailleurs va le mener à devenir un personnage ultra-officiel, et même jusqu'à l'Académie française, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il sent qu'en fait, cette espèce de désaffection des jeunes intellectuels qui suivent alors les tentatives de Foucault, qui avait été structuraliste, et de Deleuze, etc., de Badiou et de bien d'autres ce genre, que ce mouvement-là, en fait, le consacre.
Il faut s'entendre, ça n'est pas le contenu qui est universel. Et la règle de la prohibition peut varier, et varie d'ailleurs, à l'extrême, d'une société à l'autre. Des sociétés qui sont extrêmement rigoureuses et qui traitent comme incestueux toutes sortes de rapports auxquels nous ne songerions pas à appliquer le terme. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont beaucoup plus libérales et qui autorisent des degrés qui ne le seraient pas dans un grand nombre d'autres sociétés.
À l'époque, Lévi-Strauss vous répond. En tant qu'atmosphère intellectuelle, vous répond-il ?
Là, je vais être un petit peu plus long, parce que ce qui s'est passé à cette époque, c'est que donc, il y a eu un événement très important, d'ailleurs tout le monde en parle, puisqu'il y a eu quelques cérémonies à propos des 40 années qui se sont écoulées depuis cette époque-là. C'était les événements de 1968. Ces événements de 1968 ont eu non seulement une résonance politique, même une résonance intellectuelle. Dans le cinéma, il y a eu la nouvelle vague, il y a eu une sorte de renouvellement de la littérature dans la mesure où il y a eu une espèce de réaction contre la littérature de l'après-guerre, c'est-à-dire, disons en gros, le mouvement sartrien et camusien. Et tout ceci faisait que la situation de Lévi-Strauss était très particulière, car lui-même, tout en étant ami personnel de Jean-Paul Sartre, avait été en réaction contre Jean-Paul Sartre, puisque le structuralisme est une réaction contre l'existentialisme. Autrement dit, c'est un retour, d'une certaine manière, un retour à la science traditionnelle, et même d'une certaine manière, un retour à un certain positivisme scientifique, à la fois contre les philosophies existentielles, contre le marxisme, et aussi contre le stendhalisme, qui avait réagi aussi avec Nimier et ses amis. Donc c'était une réaction contre tout ça. Et alors, 1968 avait été une réaction contre tout, mais aussi contre le structuralisme. En effet, on voit arriver à ce moment-là l'idée qui est absolument contraire à la théorie de Lévi-Strauss, puisque Lévi-Strauss, la base même de la sociologie de Lévi-Strauss, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait une règle, alors que la base de 68, c'est on doit faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire il est interdit d'interdire, ce qui est évidemment le contraire d'une règle. Alors donc, Lévi-Strauss, à ce moment-là, en a parfaitement conscience, parce qu'il me dit, au cours d'une conversation que nous avons eue en marge, je crois, il me dit, ils vont retourner à Jean-Paul Sartre. En fait, il se trompait, car les gens sont allés beaucoup plus loin que Jean-Paul Sartre, puisque ça a été le succès de Deleuze, c'est-à-dire de l'antipsychiatrie, etc., enfin, de tout un mouvement intellectuel qui aujourd'hui est complètement terminé, mais qui a joué un très grand rôle. Et alors, on peut dire qu'à ce moment-là, il est tenté, à l'occasion de ce modeste entretien, il est tenté de sculpter un peu sa statue aux yeux des gens qui écoutent la télévision. En effet, le premier passage de ces émissions à télévision, qui a eu lieu grâce à Pierre Sabag, a eu un grand bruit, véritable bruit, n'est-ce pas ?
Je me sentais un peu à l'écart, tant sous le rapport de la vie sociale que sous celui de ma carrière universitaire. Et disons, pour une fois dans ma vie, j'ai eu envie d'écrire exactement tout ce qui me passait par la tête, comme ça me passait par la tête. Et de fait, Triste Tropique a été écrit extrêmement vite, en 4 mois, si je ne me trompe, et c'est un assez gros livre. Et le titre même que je lui ai donné, Triste Tropique, me venait de l'adolescence. C'était le titre d'un roman que j'avais songé écrire quand j'étais beaucoup plus jeune. Je vous dis simplement ça pour vous montrer, enfin, dans quelle atmosphère j'avais placé la rédaction de ce livre. Alors, voilà, c'est une sorte d'école buissonnière que je me suis permis de faire pendant quelques mois.
début de Triste Tropique, il évoque les voyages.
Lévi-Strauss est en réalité un classique français. Ça se voit dans toute son œuvre, qui est écrite, au fond, dans le style, dans le grand style du XVIIIe siècle. Et alors, au fond, il a cette conviction que c'est plus intéressant de savoir ce qui se passe dans l'esprit de sa concierge que de faire un voyage pour aller visiter les îles Samoa. Je crois que c'est ça sa conviction personnelle. Mais ceci dit, en tant qu'ethnologue, alors là, il est à nouveau passionné par ce qui se passe dans l'esprit de ces populations, des Indiens Bororo, etc. Alors donc, il y a à la fois, au fond, c'est l'attitude du XVIIIe siècle, à la fois passionné par la découverte de ces populations qu'on ne connaissait pas à l'époque, il ne faut pas l'oublier, puisque sauf les pères jésuites, n'est-ce pas, on ne connaissait pas les populations, on ne connaissait que l'Europe. Et alors, il est à la fois passionné, voilà, comme ces gens-là, et en même temps, ce n'est pas son goût profond. Je crois que son goût profond, c'est la science.
Si l'on s'applique à considérer que les sons émis, ou plus exactement les phonèmes de la langue, comme disent les linguistes, n'ont de réalité et d'importance que dans la mesure où ils servent à distinguer des significations, et que tant qu'ils sont aptes à distinguer ces significations, les petites variations qui peuvent apparaître en fonction du moment, en fonction de l'heure ou de la minute, n'ont pas d'importance, et que ce qui est important, c'est donc la relation entre les phonèmes et non pas les sons du langage lui-même, à ce moment-là, on se met en position de comprendre ce qu'est la structure d'une langue. Or, dans le domaine des faits sociaux, nous nous trouvons placés devant une situation tout à fait analogue.
Quel est l'élément, plutôt la personne, qui a donné envie à Lévi-Strauss de faire de l'ethnologie et de devenir ethnologue ?
Je sais très bien ce qui a déterminé le structuralisme chez Lévi-Strauss. C'est d'une part cette espèce d'extase matérielle, comme on dit, qui a eu devant un pissenlit, parce qu'il s'est mis à penser à ce moment-là qu'il y avait, n'est-ce pas, dans le réel, une structure, que sans cette structure, probablement rien n'existerait. Et en effet, si nous étions des électrons libres, vous ne seriez pas en train de m'interviewer, parce que vous seriez un tourbillon d'électrons dans tous les sens, et moi aussi, d'ailleurs, nous n'existerions pas. Tandis que donc, il a eu cette idée qui est à la fois une évidence, mais comme toutes les évidences, c'est souvent ce qu'on a le plus de mal à comprendre, n'est-ce pas ? Et alors, ce sont les idées les plus évidentes. Comme disait saint Augustin, l'espace, le temps, je sais ce que c'est, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Et c'était saint Augustin. Et alors de même, la structure, c'est une des choses les plus difficiles du monde à expliquer, n'est-ce pas ? Et alors donc, il a eu cette idée. Ensuite, ce qu'il a confirmé dans cette idée, c'est la rencontre aux États-Unis de Roman Jakobson. Roman Jakobson était un formaliste russe qui a été, évidemment, qui est un homme de science de très très grande valeur et qui avait émigré tout en restant un peu crypto-communiste, pas stalinien, mais un peu crypto. Et il avait émigré pour se mettre à l'abri des tendances réalistes très dangereuses en Russie, n'est-ce pas ? Très dangereuses pour les gens qui étaient formalistes, n'est-ce pas ? Puisque le formalisme, pendant la période léniniste et stalinienne, était une injure, n'est-ce pas ? Et alors, Jakobson, qui était d'ailleurs un camarade d'enfance d'Elsa Triolet, la femme d'Aragon, Jakobson était professeur d'université aux États-Unis. Lévi-Strauss l'a rencontré, évidemment, Jacobson, qui parlait 8 langues, parlait également le français. Lévi-Strauss parlait le français et l'anglais. Et alors, ils se sont rencontrés. Et ça a été vraiment une espèce de fraternité intellectuelle, au point qu'ils ont fait une interprétation, par exemple, des Chats, le sonnet de Baudelaire. Interprétation, à mon avis, pas très convaincante, mais enfin, ils s'y sont mis à deux, et deux hommes de premier ordre. Alors, bravo, nous saluons. Et alors, donc, ça a été une espèce de fraternité entre ces deux hommes, et on peut dire que là, il y a eu une influence profonde et véritable entre deux hommes que peut-être une demi-génération seulement séparait.
J'avais eu chez les Borro, où malheureusement je n'avais pu séjourner puisqu'il s'agissait de vacances universitaires, que pendant un nombre assez restreint de semaines. J'avais eu l'expérience d'une société que tout ethnologue un peu mieux formé que je ne l'étais à l'époque aurait dû considérer comme le véritable paradis ethnologique, et où je n'aurais dû avoir qu'une seule idée, c'est retourner et y consacrer le plus long temps que je ne pouvais. Enfin, une société où non seulement la culture matérielle était largement intacte, où cet art de la plume, qui est si exceptionnellement, enfin la forme d'art par laquelle les Indiens américains, du nord comme du sud, sont parvenus à s'exprimer, était très vivant. Mais une société dont l'organisation sociale était d'une complication et d'une subtilité telle qu'on continue à la travailler, qu'on continue à écrire dessus, et qu'on est très loin d'en avoir épuisé toutes les richesses.
Il a fait la politique puisqu'il a été, je crois, secrétaire de la fameuse cinquième section du Parti Socialiste. Il s'agit du Parti Socialiste qui n'est pas le Parti Socialiste de l'époque. Pour vous rendre compte, c'était un parti qui était traversé par des courants très très opposés. Un courant réformiste qui suivait Bernstein, qui était des gens qu'il fallait pas faire de révolution et laisser le capitalisme aboutir au socialisme par lui-même. Il y avait des gens qui étaient partisans d'une certaine intervention, mais en gardant la démocratie parlementaire, et c'était représenté par Blum. Et puis il y avait des gens qui étaient absolument marxistes alors, et qui étaient dans la tradition de Gade, c'est-à-dire qui disaient qu'il faut faire la révolution et établir la dictature du prolétariat, mais pas, comme disait Kautsky, à la sauce tartare, à la manière de Lénine, n'est-ce pas? Et alors donc, ce parti socialiste-là, c'est celui-là où était Lévi-Strauss. Évidemment, le parti socialiste actuel, pour nos jeunes écouteurs, leur donne une idée plutôt vague.
Est-ce que vous pensez qu'il aurait continué en politique, qu'il aurait aimé s'engager un peu plus par la suite?
Je ne le pense pas pour une raison simple. C'est parce que, au fond, ce qui intéresse Lévi-Strauss avant tout, c'est la science. Or, il est évident que dans la mesure où la politique s'écarte de la science, la politique respecte la science. Aujourd'hui, tous les partis politiques respectent la science, n'est-ce pas, on peut dire de monsieur Krivine au disciple de Charles Maurras, tout le monde dit la science. Mais il n'en reste pas moins que quand on se consacre à la science, elle vous prend entièrement.
Même lorsqu'on peint, même lorsqu'on aime la musique et lorsqu'on a un passé tel que Lévi-Strauss, puisque vous l'aviez rappelé, son arrière-grand-père était un compositeur, un chef d'orchestre qui jouait à la cour de Louis-Philippe et Napoléon III. Et est-ce que vous pensez que cela jouait dans la composition et le fondement de sa carrière d'ethnologue, c'est-à-dire la musique, la peinture? Est-ce que tous ces arts ont participé de ses choix?
Participé de ses choix, non. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un rapport entre la musique tonale, et surtout la musique dodécaphonique, et le structuralisme. Mais ce n'est pas ça qui a déterminé Lévi-Strauss. Ce qui a déterminé Lévi-Strauss, c'est la linguistique. Et alors, en revanche, Je crois que c'est un homme qui aurait aimé être peintre. Ça, c'est encore autre chose. Peut-être que quand il a vu que ce qu'il faisait n'était pas à la hauteur de ses désirs, il a renoncé, ou je ne sais pas s'il a complètement renoncé, mais enfin, il ne s'est pas porté vers cette activité. Ce qui est certain, c'est que ce qui l'intéresse, c'est quand je lui ai posé la question, par exemple, je lui posais, il était complètement en réaction contre l'art abstrait, qui régnait encore dans les galeries de peinture. C'était un peu passé, parce que déjà, il y avait ces nouvelles tendances, ce qu'ensuite on a appelé l'art contemporain, par opposition à l'art moderne, c'est là que les mots nous trahissent un peu, mais enfin, à l'art moderne, qui était l'art qui était allé de Cézanne à l'art abstrait, et même au pop art, un peu, eh bien, on a opposé l'art contemporain, qui consistait évidemment à faire un peu n'importe quoi, enfin, je dis n'importe quoi d'une manière pas péjorative, mais n'importe quoi quand même. Comme évidemment Jasper Johns, qui peint sans arrêt le drapeau américain et tout ça, ou encore le fait de prendre une photo de Marilyn Monroe et la colorer de 5 ou 6 manières, n'est-ce pas? Eh bien ça, contre tout ça, je crois que Lévi-Strauss est absolument en opposition. Non, ce qu'il aime, je vais vous le dire, c'est la grande période onirique de Max Ernst, c'est certaines toiles de Salvador Dali, c'est l'étoile de Delvaux, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, les goûts de Lévi-Strauss, c'est vers ça qu'il va, et qu'il va toujours, je crois. Et donc, alors, une peinture qui rétablit le dessin. Et ça va tout à fait dans le sens de sa personnalité. Parce que Lévi-Strauss est un peu opposé à un certain art moderne. C'est dans la mesure où cet art moderne a renoncé au dessin. Ça a été le cas de l'impressionnisme, en grande partie, avec ses purées de couleurs des derniers Monet, etc. Ça a été le cas de l'art abstrait, au moins de l'art gestuel en particulier. Ça a été le cas de tout cet art contemporain de l'époque où je l'interviewais, n'est-ce pas? Et cela, ce n'est pas de son goût. Voilà, son goût, c'est les peintres que j'ai nommés.
Revenons donc aux explorations de Lévi-Strauss. La première a lieu au Brésil. Il rencontre pour la première fois des indigènes, les Bororo. Et lorsqu'il en parle dans le documentaire, il a un éclat dans les yeux, on dirait qu'il a, il est très ému. Et il dit, c'est le premier peuple, et bizarrement, je ne le savais pas à l'époque, puisque c'était le premier, mais le peuple parfait au sens ethnologique du terme. Pourquoi cet éclat dans les yeux?
Je crois que ce qui se passe, c'est qu'il a été sensible à quelque chose qui n'existe absolument plus au moment où nous parlions, c'est-à-dire en 2008. C'était des gens qui n'étaient pas contaminés par la civilisation pragmatique et cartésienne dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'ils voyaient des Bororo, ils verraient qu'ils portent des t-shirts, qu'ils portent des casquettes à visière, etc. Et alors, à cette époque-là, il a été séduit aussi par le mode clanique dans lequel il vivait. Il a été séduit par leur parure extraordinaire, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça. C'est au fond, à la fois son côté scientifique et son côté esthète se rejoignaient enfin.
Qu'est-ce qu'il voulait dire par perfection du peuple?
Ah, ce qu'il veut dire, c'est que, au fond, il y a... Vous allez me forcer à parler des limites du structuralisme. C'est que, en fait, les gens ne vivent pas complètement, nous ne vivons pas complètement dans des structures, parce que nous vivons dans une civilisation qui vient de l'Antiquité et du christianisme essentiellement, c'est-à-dire dans lesquelles l'individu est évident, et nous aboutissons maintenant à l'individualisme. Dans la conversation, on le dit par exemple, il sait ce qu'il pense, il fait ce qu'il veut, il marche sur les mains, c'est son affaire, etc. Or, évidemment, ça, c'est vraiment anti-Lévi-Strauss. Et ce qu'il aime dans les civilisations, c'est leur côté construit, n'est-ce pas? ...
Pourquoi est-ce que les hommes ont consacré une telle part de leur temps à inventer et à se répéter et à écouter avec délectation des histoires qui n'ont ni queue ni tête ?
Les mythes ne sont pas des objets. Si vous pensez par exemple que la révolution est un mythe, il est bien évident que vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Vous pouvez penser que la révolution française et la révolution russe ont fait avancer le monde, on peut penser qu'elles ont fait des millions de morts, mais vous ne pouvez pas dire que ce sont des beaux objets. Vous pouvez dire que c'est... Et là, c'est le regard de l'esthète qui, chez Lévi-Strauss, domine le regard de l'homme de science.
Revenons à l'homme, à la personne. Est-ce que vous pensez que Lévi-Strauss est un homme indémodable ?
Ah oui, ce sera toujours l'une des tendances de notre civilisation de revenir au classicisme. Au moment où je vous parle, on est en pleine période de baroque. Tout le monde parle de baroque comme c'est d'ailleurs chose. Aujourd'hui, par exemple, les gens iront plutôt admirer les créations baroques, n'est-ce pas, l'architecture baroque. Mais ces admirables architectures, comme sont le palais de Versailles, comme sont les grandes constructions qu'ont fait les Bourbons en Italie, je pense en particulier à Caserte. Je parle des Bourbons de Naples, bien entendu. Et ces choses-là, aujourd'hui, sont devenues des objets plutôt pour les touristes qu'on montre aux touristes français, allemands, japonais, mais qui ne sont pas modes. Or, moi, je pense qu'on reviendra toujours alors à Lévi-Strauss, aux classiques et aux choses qui sont indémodables, parce que, je ne dis pas ça pour diminuer le baroque, parce que personne n'admire Michel-Ange autant que moi, mais il n'en reste pas moins que peut-être que Léonard de Vinci est plus indémodable que Michel-Ange et son école.
Pensez-vous qu'il y ait eu des moments où il soit plus à la mode que d'autres ?
Bien entendu. Il faut distinguer deux choses. C'est les scientifiques qui ont toujours pris au sérieux Lévi-Strauss, même qu'ils me l'ont critiqué d'une manière terrible jusque à l'Académie française. Je ne sais pas si vous vous souvenez du discours de Roger Caillois contre Lévi-Strauss, mais on n'a jamais considéré que c'était rien du tout. N'est-ce pas ? Dans ce sens-là, Lévi-Strauss est indémodable, comme vous diriez. Mais d'un autre côté, il y a toute autre chose qui est la mode. La mode qui fait que, par exemple, en 1919, Madame Chanel décide qu'il fallait mettre les robes aux genoux. Ensuite, on rallonge les robes. Ensuite, par exemple, Dior fait une certaine mode, puis Saint Laurent fait une autre mode, etc. Alors cette mode-là, ces modes-là s'étendent à toute la vie d'une société. Les femmes sont particulièrement sensibles à ça. Et vous voyez très bien, par exemple, que l'idéal féminin des hommes est une chose qui varie, n'est-ce pas ? Par exemple, à un moment, c'est la carmélite, et à un autre moment, c'est la femme évaporée, n'est-ce pas ? Et alors donc, je crois que, en ce sens-là, oui, Lévi-Strauss n'a pas été à la mode à un moment, et il est revenu à la mode. Autrement dit, il lui est arrivé la même aventure qu'à des gens comme Paul Morand, qui ont été démodés, puis sont revenus à la mode. Et parce qu'ils ont vécu assez longtemps. Autrement dit, il suffit de vivre très vieux.
Lévi-Strauss, un éternel renouvellement.
Je ne dirais pas ça, parce que maintenant... Ah non, parce que maintenant, il est arrivé au stade des dictionnaires, n'est-ce pas ? Je parle des dictionnaires futurs, parce que je ne parle pas des dictionnaires qui donnent les gens contemporains. Je parle des dictionnaires comme les dictionnaires dans lesquels on vous parle. On vous fait un article sur Pascal, un article sur Gassendi, un article sur Diderot, etc. Je crois qu'il en est à ce stade, Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'il est passé à l'état de personnage référence.
Quel est le livre de Lévi-Strauss qui aurait le plus bousculé les esprits ?
Au sujet du succès public, c'est évidemment Triste Tropique. Je me souviens que même des secrétaires qui n'avaient pas supporté la deuxième émission que j'ai consacrée à Lévi-Strauss, parce que c'était trop difficile, lisaient Triste Tropique.
Donc il y a, à ce point de vue-là, c'est absolument certain. Au point de vue du livre qui est le plus contestable et qui en même temps fait date quand même dans l'histoire de la pensée, puisque c'est la pensée anti-sartrienne, c'est son premier livre.
La théorie de la règle de Lévi-Strauss, en quoi consiste-t-elle, le fondement même de la base de l'enseignement de Lévi-Strauss?
Le fondement même de la base de Lévi-Strauss vient du fait de son expérience, d'abord chez les Bororos, ensuite chez les Indiens et ensuite chez tout le monde. C'est le fait qu'il faut qu'il y ait une règle. Et je prendrai un exemple très simple, puisque vous êtes une femme, c'est qu'un homme peut avoir une femme, peut avoir deux femmes, trois femmes. Une femme peut avoir trois hommes, comme au Tibet, ou encore on peut imaginer tout un tas de sociétés dans lesquelles ce sont les oncles qui dirigent et non pas les pères. Mais s'il n'y a pas une règle, il n'y a pas de société. S'il n'y a pas de société, il y a une dissolution. En ce sens, je dirais même que Lévi-Strauss, bien qu'il se garde bien de le dire, parce qu'il aura de tout ce qui pourrait être pris pour une provocation, n'est-ce pas, parce qu'il pense que c'est absolument inutile. Mais je pense qu'il pense que cette espèce d'exaltation de l'individualisme dans lequel nous vivons amène à une dissolution et peut-être même à quelque chose qui ressemble à la dissolution de l'Empire romain, c'est-à-dire à un pouvoir militaire et à des invasions. Je pense, là je m'avance en disant, parce que peut-être qu'il dirait que je vais trop loin, je vois ça dans le droit fil de sa pensée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une règle, qu'il n'y a pas. Quand il n'y a pas de règle, la société se dissout. Elle ne peut pas subsister sur des bases juridiques, c'est-à-dire la loi qui vous interdit, par exemple, de battre à mort votre enfant, ou la loi qui vous interdit de dire du mal des Noirs, ou des choses comme ça. Je ne dis pas de mal de ces lois-là, parce qu'elles en valent d'autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas des règles vécues. La preuve, c'est qu'on éprouve le besoin de mettre des lois. Tandis que la femme qui reste fidèle à son mari, l'homme qui reste fidèle à sa femme, le prêtre qui reste chaste, ceci est une règle. Règle que vous trouvez stupide, peut-être, mais c'est une règle et la société vit là-dessus.
Peut-être aussi une certaine surdité est-elle féconde du point de vue de la création véritable? Les grandes époques ont été celles où les hommes communiquaient suffisamment pour pouvoir se féconder réciproquement et où en même temps la communication se trouvait freinée et ralentie de manière assez substantielle pour qu'ils puissent tirer pleinement profit des avantages de la communication proprement dite. Enfin, un monde où les lettres mettaient plusieurs semaines à se parvenir, était un monde peut-être mieux équilibré que celui où nous vivons aujourd'hui.
Dernière question donc sur la perception de l'avenir pour Lévi-Strauss. Il exprime à la fin du documentaire une certaine gêne, un certain malaise avec la société dans laquelle il vit et il dit peut-être une certaine surdité telle féconde du point de vue de la création véritable. Pensez-vous véritablement qu'il soit fataliste, négatif?
Il pense qu'il est dans une société qui joue avec le feu, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas une règle, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, qu'il respecterait cette règle. Mais à partir du moment où la règle est qu'il n'y a pas de règle, il est interdit d'interdire, ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, ça marche si peu que notre société est hérissée d'interdictions. Ce que veut dire Lévi-Strauss, c'est pas qu'il faut des interdictions, comme par exemple de dire « c'est bien » qu'on envoie les opposants dans des chambres à gaz, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire qu'il faut que ce soit vécu de l'intérieur, cette chose-là. Et il sent que pour beaucoup de gens, pas tous, heureusement, ce n'est plus vécu de l'intérieur. C'est ça qui l'inquiète.
Au fond, Lévi-Strauss aura beaucoup voyagé, évidemment. Il a passé trois quarts de sa vie à étudier les indigènes, à parcourir les pays. Vous disiez dans un entretien préalable qu'il était finalement très franco-français.
Je crois qu'il l'a prouvé dans sa vie, d'abord parlant à Radio de New York, n'est-ce pas, comme un personnage secondaire par rapport à des grands ténors, bien entendu, puisqu'à l'époque, c'était un jeune professeur, il ne faut pas l'oublier. Mais il se compromettait, n'est-ce pas? Il se compromettait, parce que si après tout, si le Japon avait battu les États-Unis, chose qui est niée par certains historiens, eh bien, quelle aurait été sa destinée, n'est-ce pas? S'enfuir où? Alors donc, il s'engageait pour la France, parce que jamais on n'a fait appel à lui en vain pour faire la propagande française. Alors, ça peut paraître curieux chez un homme qui avait flirté avec des gens comme, dans sa jeunesse, avec des gens comme le Parti Socialiste, dans lesquels on disait, il y avait des gens, pas tous, qui disaient fermer les casernes, ouvrir les frontières, mais ça montre quand même, comment dirais-je, que la France a toujours vécu dans son cœur d'une manière très ardente.
Nous terminons sur un extrait plus long d'un compositeur très apprécié de Claude Lévi-Strauss et Stravinsky, et vous écoutez Les Noces. C'était donc des passages de l'entretien avec Claude Lévi-Strauss, mené par Jean-José Marchand, suivi des commentaires du journaliste. Vous pouvez retrouver les entretiens sur un DVD réalisé par Pierre Bechot en 2004, intitulé Claude Lévi-Strauss, et il est aux éditions Montparnasse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver d'autres émissions consacrées à Claude Lévi-Strauss sur canalacademy.com.